et aussi, alors c'est traduit à l'emporte-pièce, hein. Et aussi des tombes datant de la période paléolithique, 50 000 ans avant notre ère. Elles avaient ces francisques qui avaient été trouvés, ces francisques qui étaient sculptés et avaient été trouvés dans des tombes. Et la note de la pochette dit que c'était la hache de guerre des Amazones. Voilà, je referme la parenthèse sur cette petite énigme. Parenthèse refermée. Messieurs.
Yves.
Oui, messieurs les vilains.
Alors Yves, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Quels articles as-tu sélectionnés? Réflexion t'ont inspiré?
Je vous signale que nous n'avons pas toute la nuit ce soir.
Oui. Pourquoi on finit à quelle heure?
Alors, à 23h30. Le disque conceptuel devrait démarrer vers 23h40.
Voilà, dans 2h10.
Dans 50 minutes.
Nous
ayons le temps d'en profiter.
J'avais pas prévu.
Je veux vraiment contrebalancer toutes les poperies de cette 7 dernières semaines par un bon coup de radicalité sonore. Ou de radicalisme sonore.
Un bon coup de Francisque.
Un bon coup de Francisque un bon coup de Francisque dans les oreilles. Alors.
On peut parler de la betterave ou du sucre.
Oui.
Alors, je dois préciser que tu nous as informé quasiment avant beaucoup de gens, via certains articles de journaux, sur le problème de l'eau.
Ah oui.
Et des PFAS.
On va pas en parler ce soir ou très peu, parce que tout le monde en parle, donc c'est bon.
Oui, c'est vrai. Mais l'eau du robinet polluée dans certains endroits, l'eau des bouteilles en plastique et des sources d'eau...
J'avais raconté Nestlé avait mis en place en fait des traitements de l'eau qui sont interdits quand on met de l'eau en bouteille. Et donc ils avaient dissimulé des appareils pour essayer de rectifier un peu le tir, disons. Ils avaient dissimulé des appareils dans des armoires électriques, si je me souviens bien. Enfin bon, ça avait fait un petit scandale. Mais c'était il y a 2 ans. Et donc, on va pas parler de ça maintenant, peut-être, parce que j'ai pas commencé par
non,
ça.
Non. C'était juste un rappel.
Ouais.
It's just a rappel.
Non, je pensais parler parce que j'ai vu que en venant, le ministère de l'Agriculture, en l'occurrence Madame Pannier-Runacher.
Agnès Pannier-Runacher.
Oui. Elle a annoncé la mise en place d'une dérogation pour permettre aux betteraviers d'utiliser davantage un insecticide qui protège les cultures de la jaunisse. Alors, pour certains cultivateurs, dit l'article que j'ai pris sur France 3 Régions, c'est insuffisant. Pour d'autres, la décision est irresponsable. Bon.
Est irresponsable, c'est ce que tu as dit.
Irresponsable, oui. Alors, ils pouvaient utiliser jusqu'à 2 reprises jusqu'à maintenant, et ils pourront désormais pulvériser l'insecticide sur leur culture jusqu'à 5 fois si nécessaire. Donc, voilà. Et donc, il y a un risque de jaunisse de la betterave provoqué par des piqûres de pucerons, et qui est présenté comme très élevé, en cause l'hiver très doux dans la région. Associé à des pluies quasi constantes depuis l'automne. Bon, et donc elle est allée voir les betteraviers du Nord et du Pas-de-Calais, puisqu'ils sont gros producteurs. L'insecticide en question, donc, c'est le Movinto, et la partie active, c'est le Sprito tétramate. Je l'ai dit sans tousser. Les betteraviers l'utilisent notamment depuis l'interdiction en France des néonicotinoïdes, qui étaient les pesticides tueurs d'abeilles. Bon, alors, cette interdiction au niveau européen a été, on s'est conformé parce que sinon on avait la justice européenne sur le dos. Quels sont les risques pour la santé? Ben, Madame Agnès Pannier-Runacher, elle dit les dérogations sont données sur des molécules qui sont autorisées au niveau européen, donc ça n'est pas une dérogation par rapport à des molécules interdites. Donc circuler, il n'y a rien à voir, comme dirait Monsieur Coluche. Mais c'est un avis qui n'est pas partagé par Génération Future, qui, dans un communiqué publié dans la foulée de l'annonce faite par la ministre, rappelle que le spirotétramate, matière active de l'insecticide, est officiellement classé par l'Union européenne comme étant suspecté toxique pour la reproduction. Et donc, Monsieur François Veillerette, porte-parole de l'association, demande au gouvernement de renoncer à accorder cette dérogation. Il regrette que le gouvernement cède systématiquement aux demandes du monde agricole en matière de pesticides au mépris du principe de précaution, a-t-il ajouté. Alors, qu'en pensent les betteraviers? Ben, les betteraviers, ils pensent que c'est indispensable mais insuffisant. Et donc, il paraît qu'en 2020, il y a eu un épisode qui a été une année noire pour les betteraviers. Le risque étant d'utiliser 5 fois le même produit, la même molécule sur les pucerons, on risque de développer des résistances. Et le produit sera peut-être inefficace à terme, car les pucerons seront devenus résistants à cette molécule. On se privera de la molécule même, explique M. Fabien Hameau, président de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves, dont l'abréviation est CGB, dans la Somme. Et donc, la CGB est affiliée à la FNSEA et demande une dérogation pour un autre insecticide interdit en France depuis 2016, qui est l'acétamipride. Bon, cette molécule serait utilisée en Europe et interdite en France. Bien. À Arles en Goële, Stéphane Delmotte se situe à l'exact opposé de cette position. Cette décision est parfaitement irresponsable, lâche le cultivateur de betteraves, sucrière en bio. Envoyer le signal avant le début de la campagne de l'usage d'un insecticide qui est déjà autorisé, mais pour lequel on va plus que doubler le nombre de passages sans même savoir de quoi sera faite l'année. Tiens, il se préoccupe du climat, lui. C'est une décision qui n'est justifiée par aucune réflexion digne de ce nom, dénonce l'agriculteur qui est membre de la Confédération paysanne. Alors ceux-là, ils n'ont pas été... Bon, c'est pas ceux qui discutent en général avec le gouvernement, si j'ai bien compris. Hein. C'est réservé à un seul syndicat, ça je crois. Selon lui, le contexte météo particulièrement inhabituel est même un argument pour éviter d'utiliser l'insecticide au maximum, car les betteraves semées plus tard seront moins longtemps sensibles et vulnérables aux pucerons, résume-t-il. Bon, très bien. Et pourquoi, madame...
Pannier-Runacher
s'intéressant à la betterave, ben, nous sommes le premier producteur de sucre blanc de l'Union européenne et le deuxième mondial de sucre de betterave. C'était en 2023. L'UE, elle produit 15 millions de tonnes en 21-23. Les rendements betteraviers et sucriers sont parmi les meilleurs du monde. Et en France métropolitaine, on produit 4 millions de tonnes et 202 623 tonnes, pour être précis, en Outre-mer, où il y a 5 sucreries, alors que sur le territoire de métropole, il y en avait 21. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des quotas, comme pour tout avant avec la PAC, mais les quotas de sucre, ils ont fini très récemment, le 1er octobre 2017. Ce qui s'est passé, c'est que la fin des quotas donc a levé la double barrière que représentait la limitation des quantités de sucre produites pour un usage alimentaire et les restrictions imposées par l'OMC quant au volume de sucre. Alors, je ne sais pas ce que vient faire l'OMC là-dedans, mais donc la levée, elle tient aussi à l'OMC. Que dire de plus?
Oui, ça n'explique pas les quotas, quoi. Bah, que d'avoir supprimé les quotas.
Si, ouais. L'histoire... Alors, en 2006, il y a eu une adaptation aux règles de l'OMC, aux règles de la PAC à l'OMC. C'est-à-dire, en Union européenne, depuis 1968, l'organisation commune du marché de sucre, dans le cadre de la PAC, est basée sur des quotas et le soutien des prix. Puis en 2006, il y a une adaptation aux règles de l'OMC qui vise à accroître l'ouverture communautaire aux importations de sucre en provenance de pays moins avancée. Et en zone Afrique, Caraïbes, Pacifique. En 2013, il y a une nouvelle réforme de la PAC. Les quotas de production de sucre et le prix minimal réglementaire de la betterave ont été abandonnés avec effet au 1er octobre 2017. Donc, cette fin des quotas, ça s'est soldé en 2017-2018 par une part de la France conforme à ses capacités sur le plan mondial. Puis il y a eu une crise dont l'origine a été les fortes augmentations de production de certains grands pays sucriers. Les cours mondiaux, les cours de l'UE étaient très bas en 2018-2019. En 2020, ils étaient mieux orientés car il y avait un déficit sur le plan mondial, malgré ce que dit l'article précédent donc sur les pucerons en 2020. Et c'est à peu près tout. C'est un secteur qui se porte pas si mal, disons. On fait de la betterave parce qu'il y a un moment, ça doit être sous Napoléon que je retrouve le truc, les Anglais nous ont coupé l'approvisionnement en sucre de canne. Mmh. Et donc on s'est mis à développer...
C'est sûrement probable, ça, c'est bien. Oui, voilà. Oui.
Donc je ne sais pas où j'ai mis ça.
Oui, tu regardes ce temps. Pendant ce temps-là, je peux dire que tu as cité l'agriculteur là, qui est en Goële, et la Goële, c'est au nord-est de la région parisienne.
Oui, voilà. Mmh. Il y a Damartin en Goële.
Voilà, exactement.
Est-ce que tu as retrouvé
Je ne vais pas retrouver. Donc, laissons tomber. Peut-être. C'est pas très important.
Durant l'émission, c'est pas grave.
Oui. Mais enfin.
Oui. Oui, ça date de là, donc on s'est lancé. Sais qu'en France, principalement dans le Nord, hein, puisque c'est là que c'est betteravier, il y a eu au début des années 1900, il y avait 1100 sucreries.
Oh là!
On a été jusqu'à 1100 sucreries, oui. Inimaginable. Hein. Et maintenant, on en est, combien, une vingtaine. Ah oui. 21 sucreries pour toute la France.
Oui. Plus 5 pour l'outre-mer.
Voilà. Alors tout se fait en camion. Voilà. Tout le voyage des betteraves vers les sucreries se fait nuit et jour en camion quand c'est la période.
Oui.
Inimaginable.
Ouais. Moi, je suis champenois,
ouais.
Et donc, effectivement, il y a une culture des betteraves dans la région.
Aussi, oui.
Et quand on cultive la betterave, ça ne s'arrête pas, camion après camion, etc. Il y a toute la nuit et tout ça pour transporter effectivement ces betteraves jusqu'aux sucreries.
Oui, puisque les sucreries donc, sont très peu, et comme elles sont très peu, elles tournent. Elle fonctionne jour et nuit.
Et voilà, on parle de campagne betteravière, une saison pour ça, et une fois que les donc voilà, et effectivement ils bossent vraiment tout le temps 24 heures sur 24 pendant 2-3 mois, je pense.
Alors, il fait chaud, il y a du brouillard, peu importe, ça tourne avec les camions, c'est très dangereux, hein, ça tourne avec les camions. Il vient des camions de toute l'Europe pour charger les betteraves.
Oui, c'est ça.
Ah ouais.
Donc voilà.
Voilà. Et sinon, c'est dans le canard enchaîné, mais on peut faire une pause musicale si tu préfères.
Après cette passionnante,
superbe. Oui, c'est bien.
Ce passionnant détour par la betterave.
Ah, oui,
pause
oui.
musicale.
Ah, oui. I sense the hesitation.
Non-Radio Show, une émission sur Radio Libertaire. Et avant que vous repreniez la parole, un petit mot sur le premier morceau qu'on a entendu. On n'est pas des moutons. Il s'agit du collectif Artipique que j'ai vu mardi soir, en fait, dans le cadre professionnel, et dont je voudrais juste dire deux mots. Ça a été créé en 2011 par Majid Kabdani, le collectif, qui est une troupe d'artistes issus de la scène culturelle française et international, aux côtés de chanteurs, musiciens et comédiens porteurs de handicap mental et ou autistes. Ces artistes amateurs et professionnels, tous passionnés par l'art et la scène, composent le collectif Artipique dans la diversité et se nourrissent des richesses de chacun pour donner vie à des projets aussi techniques que singuliers, en alliant le théâtre, le cinéma et la musique, qui joyeusement s'entremêlent et rassemblent outre frontières pour révéler et promouvoir tous les talents au-delà des préjugés. Voilà, donc je me suis procuré ce mini-album qui était en vente lors de la soirée. Et puis à l'instant, Johnny Pierce, dans son dernier album quasi éponyme, Johnny, du groupe The Drums, qui pose les fesses à l'air. Il a d'ailleurs de jolies fesses. Bah Serge, je montre à la caméra, et Serge a une révélation. Qui est ouvertement gay, et puis voilà. Alors, j'aime moyennement l'album. Mais voilà. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc, tu voulais revenir, Yves, à. À quoi ?
À propos de notre ministre de l'économie qui est quand même présent depuis 7 ans et un article du Canard, c'est M. Macron qui a fait cette remarque, hein, qu'il est ministre depuis 7 ans.
Oui, on dirait de collègues de boulot dont l'un dit à l'autre,
oui.
Ça fait 7 ans, ça fait 7 ans que tu bosses pas, enfin ça fait vraiment à la ramasse comme d'habitude.
Hein. Non mais il bosse beaucoup monsieur le maire.
Enfin peut-être pas dans le bon sens.
C'est dans le Canard Enchaîné du mercredi 3 avril. Donc le titre de l'article, c'est « La méthode Le Maire pour torpiller la taxation des super-profits ». Et le ministre de l'Économie avait promis une taxe de 12,3 milliards d'euros sur les bénéfices des énergéticiens. Elle a rapporté 20 fois moins, à sa grande satisfaction, dit le sous-titre. Donc ce qui s'est passé, c'est que... pressé en 2022 d'instaurer un super impôt sur les super bénéfices des groupes énergétiques, électricité, gaz et pétrole, Bruno Le Maire, puisqu'il s'agit de lui, avait fait mine de lâcher prise, mettant en place à contre-cœur, dit l'article, une contribution sur la rente inframarginale, le CRI, C-R-I. Donc, frappant les producteurs d'électricité, elle devait rapporter sur 2 ans 12,3 milliards d'euros dans la caisse de l'État. Elle a rapporté 600 millions, 20 fois moins. Une surprise pour le maire, sans doute pas. Avoir le minutieux travail de sape auquel Bercy s'est livré pour étouffer cette taxe aux allures de gesticulation politique. Donc voilà le récit de ce jeu de dupes fiscales. Au printemps 2022, les grands groupes révèlent des dizaines de milliards de bénéfices réalisés grâce à la crise. Tous les partis, à l'exception de celui de Macron, appelle à taxer ses super-profits comme s'ils sont employés ses voisins européens. Mais il y a un dogme macronien, pas de nouveaux impôts dans le pays le plus imposé d'Europe, et le maire s'y oppose mordicus. Il dit même « Je ne sais pas ce que c'est un super-profit ». Ah, ben c'est vrai, c'est étonnant. Et donc, et taxer plus en France, c'est produire moins en France. Bref, l'opinion publique, elle s'échauffe. Elle ne comprend pas que les faramineux bénéfices d'opportunités accumulés grâce à la crise ne soient pas plus lourdement imposés. L'image du président des riches revient flotter dans l'atmosphère. Il faut réagir. D'autant plus que le 6 octobre 2022, Bruxelles a autorisé la taxation des super-profits. Et donc, le gouvernement pousse alors sa CRI, le CRI, à savoir un prélèvement de 90% sur la production électrique vendue en dessous de certains tarifs dits normaux, par exemple plus de 90 euros par mégawattheure ou pour le nucléaire 100 euros et pour l'éolien et le solaire, etc. Alors le mégawattheure d'électricité atteint 700 euros, les rentrées s'annoncent excellentes, 12,3 milliards d'euros, donc sur 2 ans selon les prévisions de la direction du Trésor, qui sait compter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben oui.
Les producteurs d'énergie fossile, le gaz et le pétrole, ont été exemptés. Ils ne feront l'objet que d'un prélèvement rikiki qui rapportera une misère 200 millions. Les barrages hydrauliques sont aussi partiellement exclus du champ de la contribution. Mais le plus gros morceau, c'est EDF. En 2022, l'électricien enregistre une nette baisse de production due à la défaillance en chaîne de ses réacteurs nucléaires, dont la moitié est à l'arrêt. Et alors, il lui faut acheter sur le marché, à près de 400 euros le mégawattheure, de grandes quantités d'électricité pour la revendre moins de 100 euros à ses clients, ce qui lui fait perdre quelques 18 milliards. Une donnée parfaitement connue lorsque Bercy a lancé la CRI à laquelle EDF devait contribuer pour moitié. Autant dire que le maire a soumis EDF à une contribution dont il savait d'avance que l'entreprise n'aurait pas à l'acquitter. Encore plus embêtant, en 2023, EDF fait une année exceptionnelle, 10 milliards de bénéfices qui auraient dû être taxés à la CRI. Mais le gouvernement, qui est son actionnaire à 100% de EDF, l'autorise à reporter sa perte de 18 milliards sur 2023. Alors, joli numéro d'illusionniste, à ce jour, l'électricien national a versé 51 millions, moins de 1% de ces 5,2 milliards prévus par la quote-part à la CRI. Donc, c'est sans surprise qu'après l'annonce tonitruante de l'automne 2022, la recette du CRI, un an plus tard, a été réajustée à 3,7 milliards, puis à 2,8 milliards en décembre dernier. Et en mars, on apprenait que l'État ne toucherait finalement que 600 millions, soit environ, d'après la Cour des comptes, moins de 2% des quelque 37 milliards de marge réalisées par les producteurs et distributeurs d'électricité. Ça s'appelle s'en tirer à bon compte. Donc peut-être la taxe avait-elle été mal calibrée, se défend aujourd'hui Bercy, dont on sait la création récente et l'amateurisme... c'est étonnant, quoi, disons. La faute au prévisionnisme du Trésor, les conseillers du ministre de l'Économie, qui ne veulent pas se fâcher avec cette administration d'excellence, bottent en touche. La raison principale est le prix de l'énergie qui s'est effondré en 2023. Une explication battue en brèche par Julien Tédé, responsable d'Opéra Énergie, une société spécialisée dans l'achat d'énergie pour les collectivités locales. La plupart du temps, les producteurs ont livré en 2023 de l'énergie achetée très chère l'année précédente. La baisse des prix en 2023 n'a donc pas eu d'effet sur leur marge en 2023 et ne peut expliquer le trou du cri. Donc M. le maire, dont on sait qu'il est toujours plein de volonté, de bonne volonté, a annoncé un possible réaménagement de la taxe en 2024. Alors le canard dit pour qu'elle rapporte encore moins. Ça tombe bien, le prix de l'énergie a baissé et il n'y a plus de super profit à taxer. De toute manière, on ne sait pas ce que c'est les super profits. Et le ministre a donc bien réussi son coup.
Ouais, ben, d'accord. Bon, la ministre de l'économie qui, qui magouille un petit peu quand même.
Voilà. Bref, no comment.
Guy, tu voulais revenir effectivement sur le... Sur le dernier, Monde Libertaire.
Oui, dernier numéro du Monde Libertaire.
Du mois d'avril.
Oui, c'est le 1860.
Spécial nucléaire, apparemment.
Oui, alors numéro 1860, c'est pas l'année, hein, c'est le numéro.
Oui,
non, je rigole, oui. Alors, oui, contre le nucléaire et son monde, c'est le titre de ce dernier numéro, donc du Monde Libertaire. Et voilà ce qui est dit dans l'édito. Je sais que dans votre alchimie, alors c'est une, comment on peut dire, c'est pas un dicton, mais c'est dit donc par Hubert Félix Thiéphaine, je pense dans un de ses disques, hein, qui est titré Alligator 427, mm-hmm. Il dit « Je sais que dans votre alchimie, l'atome ça vaut des traveler chèques et ça suffit comme alibi ». Voilà. Alors, les abonnés ont trouvé avec ce numéro d'avril l'un des derniers livres parus aux éditions du Monde Libertaire, La pieuvre nucléaire. C'est vrai que le livre, là, je l'avais déjà vu donc à la librairie Publico depuis un an peut-être. Oui. Alors, ce livre accompagne le dossier anti-nucléaire de votre Monde Libertaire et fait le point sur le sujet en l'abordant sous tous les angles de la technique et de la santé, du climat, de la sociologie. C'est un livre pratique qui permet de comprendre les enjeux et de prendre part aux différents débats autour du nucléaire aujourd'hui. Alors donc, effectivement, le livre était joint à l'envoi du Monde Libertaire, hein, du dernier. Alors, car il faut également faire le point sur ce sujet, au sens figuré, bien sûr, en organisant des débats ou en participant aux réunions pour apporter la contradiction. Le dernier congrès de la Fédération anarchiste était à Cologne, donc en 2023, hein, au mois de mai. Je me souviens, donc à prolonger la grande campagne d'antinucléaire décidée déjà en 2022. Un certain nombre d'actions ont été déjà réalisées, d'autres doivent suivre et un nouvel outillage vous est proposé avec cette pieuvre insérée dans le Monde Libertaire d'avril, consacrée à la lutte, aux luttes antinucléaires aujourd'hui. On pourra également relire l'abondant dossier du numéro 1849 d'avril de l'année dernière, intitulé « Élections piège à con ». Alors même si le dérèglement climatique est aujourd'hui indéniable, de façon générale, le conditionnement généralisé et l'acceptation au développement du nucléaire est insupportable. Toutes les politiques gouvernementales avec plus ou moins de complicité de la part des mouvements écologiques, des mouvements politiques en particulier, visent à faire du nucléaire l'énergie verte universelle pour le plus grand profit des capitalistes. Et comme la fameuse transition énergétique est un leurre, puisqu'une nouvelle source d'énergie n'en remplace pas une autre, mais s'y ajoute, on risque bien deux catastrophes, l'une climatique, l'autre nucléaire. Comme dit l'autre, réarmons-nous. Voilà, c'était l'édito. Et je vais vous montrer le Monde Libertaire. Voilà, vous avez la primeur d'avoir l'image.
Oh, c'est beau.
Le Monde Libertaire avec la pieuvre. Et qui est en fait l'agrandissement de
la pieuvre nucléaire.
De la pieuvre sur le petit livre qui est. Même pas format A5, hein, c'est même plus, un petit peu plus petit que le format A5, mais il y a quand même presque 200 pages. Hein, il y a 180 pages, je crois.
D'accord.
Oui. Tout est super à l'intérieur. Voilà, alors vous pouvez vous le procurer bien sûr à part, mm-hmm. mais ça ne vous empêcherait pas d'apprendre, d'acheter Le Monde Libertaire. C'est 4 euros l'unité. Hein, voilà, quand vous l'achetez, vous n'êtes pas abonné. Vous...
Il y a des arguments, parce qu'il est question de ces petites centrales. De ces,
ah, ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Oui,
attends, de ces mini-centrales.
Ouais,
mais donc, formidable, ça permet d'avoir des petites unités qu'on déplace où on veut, etc. Et j'ai lu un article où ils disaient, bon, d'accord, petite centrale, on la met où on veut. Mais, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens à côté, là, quand ils vont être déplacés si on en met une devant la place de la mairie, dans le champ ça va être quoi la réaction des gens à l'installation d'une petite centrale? Et une fois que ce truc est... Ce mini-centrale, plutôt, une fois que cette mini-centrale est là pour un temps, a priori, qui peut être court, hein, parce qu'on peut en avoir besoin à un autre endroit, je pense que l'intérêt, c'est de pouvoir les déplacer. C'est quoi les mesures de sécurité qui vont accompagner ces mini-centrales? Parce que dans les centrales nucléaires, il y en a des mesures de sécurité. Ah oui. Mais là, on fait comment? On leur laisse un bataillon de CRS autour en attendant un hypothétique survol de drone ou un truc comme ça? On fait quoi? Et cet article, il s'alarmait un peu de cette dissémination, puisqu'en fait, c'est un peu ça, sur le territoire. Mal contrôlé au niveau de la sécurité. Par exemple, pour les JO, imaginons que nous ayons une mini-centrale supplémentaire pour pouvoir alimenter une électricité, j'imagine, je plaisante un peu, mais où est-ce qu'on la mettrait? Sous la tour Eiffel? Je plaisante, mais le problème de sécurité, néanmoins, bon, on va me rétorquer qu'il y a un tas de doses nucléaires qui se baladent un peu partout dans les hôpitaux. Certes, c'est pas du tout le même problème quand même.
Non, c'est pas le même niveau de
non. Et puis sinon,
de radiation.
Pause.
Oui, d'accord.
T'as quoi?
Ah ben c'est toujours le ministre. C'est toujours Bercy, hein.
Mais, Bercy qui ça... quoi? Non, pause.
Ok.
Merci. My 60, go far.
the king. He ain't the king, she's the queen.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, The Post Known Radio Show, The Post Known Radio Show. Alors le disque conceptuel de ce soir. Déjà, c'est un disque objet avec une présentation artisanale qui a, se présente, qui est contenu déjà dans une pochette plastique transparente, puis il faut déplier un papier noir comme ça, un peu comme on trouve dans les boîtes à chaussures neuves quand on les achète. On déplie donc ce papier noir et à l'intérieur on trouve le CD qui est accompagné d'une petite un petit bout de feuille, un petit dépliant,
voilà. Un petit flyer quoi.
Avec quelques notes de pochette et qui est posé sur un rectangle de mousse pailletée où l'on trouve le nom de l'artiste Toshiji Mikawa et le nom de l'album Radio Code. Alors, Toshiji Mikawa, c'est un des membres d'un des groupes de noise music, de noise les plus célèbres du Japon, Ijo Kaidan. Et dans ce disque, qui est à l'origine une cassette, Toshiji Mikawa s'amusait à pirater les ondes FM et ou courtes au Japon, et puis il piratait en fait les retransmissions en live, et puis cette cassette s'est retrouvée en Hollande, entre les mains d'une émission qui s'appelle Radio Code et qui était diffusée. Alors je n'ai pas vérifié, pour la énième fois j'ai mal fait mon boulot, qui était diffusée sur une radio FM pirate qui s'appelle, basé à Amsterdam, et qui s'appelle Radio 100, qui s'appelait Radio 100, mais ça, je vérifierai pour la... Ou je peux vérifier tout à l'heure, mais bon. Il n'y a plus vraiment beaucoup de temps avant que ça commence. Donc, on va s'écouter ce détournement, ce piratage de retransmission radiophonique par Toshiji Mikawa au sein de l'émission, enfin retransmis par l'émission Radio Code sur la radio hollandaise Radio 100. C'est paru sur le label hollandais AQM et ça date de 1988. Radio Libertaire, Brasnan Show. Et j'ai oublié de préciser que ce disque, donc Radio Code de Toshiji Mikawa, est introduit par le non moins célèbre John Duncan. Donc si vous aviez quelque chose à dire, eh bien malheureusement c'est la fin.
Ok, tant pis.
Clic, clic. C'était quoi comme sujet ?
L'entre-soi.
Le...
C'était assez saignant.
À l'entre-soi, ce sera pour la semaine prochaine si tu veux bien. Car là, le disque conceptuel ne va pas tarder à démarrer. Est-ce que c'est long ?
Bon, au lieu de se demander, j'y vais.
Vite alors.
Il s'agit de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qu'elle s'appelle Direct, de Normandie, qui boucle une enquête sur les franchisés de Carrefour. Les agents de Bercy montrent, entre autres, qu'en passant sous le statut de location-gérance, des centaines de magasins du groupe sont déliés des accords d'entreprise signés depuis plus de 20 ans. Résultat, leurs salariés n'ont plus le droit à l'intéressement, ni à la participation, ni aux diverses primes et avantages sociaux qui coûtaient sans doute trop cher à la direction. Le déplaisant rapport de la Directe, qui concerne des milliers de salariés, a été envoyé au ministère de l'Économie. Depuis, il dort dans les tiroirs de son patron, Bruno Le Maire, toujours le même dont je parlais dans un article précédent, dont je n'ai pas dit qui était l'auteur. L'auteur, c'était M. Hervé Martin. Et donc, il dort. Et l'article devient méchant après. Il dit « Cette apathie ne semble pas avoir de rapport avec la nomination en mai 2022 de Charlotte Coubel, épouse à la ville du PDG de Carrefour, au secrétariat d'État à l'enfance. En revanche, un mois plus tard, Morgane Veil, au cadre du groupe depuis 2018 et directrice notamment des supermarchés France, est devenue directrice adjointe de cabinet de Le Maire à Bercy. Aujourd'hui, elle est directrice de cabinet d'Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, et Coubel a quitté le gouvernement. Une certitude en haut lieu, le sort des franchisés de Carrefour n'intéresse toujours qu'à la marge. Et donc ça, c'est le méchant Jean-François Julliard et le méchant Jean-Louis Le Touzet qui font preuve d'un esprit...
D'un esprit, oui.
Ça montre bien ce que c'est que l'entre-soi, disons. Voilà. Outre que, alors, cette histoire de Carrefour, on a eu des émissions à la télévision de Lise Lucet notamment, qui montrait les gens qui étaient des franchisés, comment ils perdaient justement ces avantages. Mais là, on a un rapport officiel de Bercy. Mais rassurez-vous, il est dans un tiroir.
Et bien, sur ces mots, on se quitte pour ce soir. Bonsoir.
Bonsoir, Henrik.
Bonsoir Serge, bonsoir Guy, bonsoir Yves.
Ouais. Bonsoir.
Merci pour votre présence. Et comme l'écrivait Marguerite Duras, que j'évoquais, qui était évoquée la semaine dernière, écrire, c'est peut-être aussi valable pour parler. Hein. Dans un esprit un peu comme ça, retors qui me vient à l'esprit. Écrire, c'est aussi ne pas parler, se taire, hurler, sans bruit. Eh bien, c'est tout le contraire qui va se passer, puisque Toshiji Mikawa, lui, il va hurler avec beaucoup de bruit. Bonsoir, bonne semaine, bonne soirée, en compagnie des amis de Churchot, et salut.
Bonsoir,
ciao.
Je vais vers le contrôle fiscal.
Oui.
Au revoir.
Ciao.
Au revoir. Ciao.
Au revoir.
This is Radio 100, and this is Radio Code. Radio Code began in Tokyo as a portable pirate FM radio station, and continues now on Radio 100, giving you underground music from Japan heard over radio for the first time.
Toshiji Mikawa is a member of Hijo Kaidan, a band that I've played on this program before. Hijo Kaidan is four members, housewife, secretary, an office worker, and a bank executive. The band Hijo Kaidan is known in Japan for their performances where the one of the women who also does vocals will do actions like pissing on the stage or shitting on the stage, and the rest of the members will sort of move around on the stage after this, in this, and play homemade electronics, and in the process destroy these homemade electronics. And as I said before, when I introduced Hijo Kaidan, people who are not familiar with their gigs when they first see them are rather skeptical to hear that these people are office workers that they're looking at on the stage. But then when they start playing, they shut up and listen and, change their minds, we hope. In any case, what you're listening to is a solo work by Mikawa, who is the bank executive. Takuya Sakaguchi was the first person that I met in Tokyo. He's a scientist. He's a biologist, more strictly speaking, studying and researching higher nervous energy, which is how the Japanese title translates. What he's studying is the connections between the locus ceruleus neuron and the visual cortex. The locus ceruleus neuron is a connection between the visual cortex and the optic nerve. And the research, as I understand it, is leading to, or can possibly lead to, the study of the function and possible improvement, very possible improvement. I can hear him cringing. The improvement of memory in human brain, or more strictly speaking, the growing of brain cells, which is what he's working on now. He sees the connection also between his research in science and music that is self-produced, music that is made by people who are researching, if you will, sound for their own purposes, for their own for their own knowledge, for their own what would be the word? Growth, I suppose. In any case, he's produced several works. One of them was a work by the Hafler Trio, who some of you may know. Another one was this three cassette solo work. What you're listening to is a feature program tonight featuring the work of Toshiji Mikawa in a three cassette tape produced by Takuya Sakaguchi. And we're just about to hear the second side of this first cassette, which is Leprosy and Manic Depressive. You just heard Japsok, and we're about to hear Leprosy, Manic Depressive. Again, this is a solo work, solo three cassette release, produced by Takuya Sakaguchi, and this is a solo work by Toshiji Mikawa. Come on!
Sure Shots Radio Show.
Sure Shots Radio. Get it. Sure Shots Radio Show. Ha! Sure Shots Radio Show. That's what it is. Bang.
DJ C. Kill.
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 DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
DJ Legal from the Snow Goons. You're listening to the Sure Shots Radio Show. Every Friday night at midnight, only the real hip hop. You know the S Team Records team. DJ 5, C-Cal, and Numax. You know how we do, man. Peace.
Yo, 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 this is Signature repping the Snow Goons. You're now checking out the Sure Shots Radio every first Friday at midnight. 10 hours of pure hip-hop live and direct with DJs, DJ 5, Numax, and C-Kel. S-Team Records, salute. What up, this is Signature repping the Snow Goons. You're now checking out the Snow Goons special brought to you by DJ 5, C-Kel, and Numax. Sure Shots Radio, real hip-hop in your face. Boom.
Your boy, man, y'all know what it is. Mike Supreme, the Beast, Rough Riders, Four Seal Collective, Chi-Town, stand up. And you're not tuned in to Sure Shot Radio with DJ 5 and DJ C-Kell. Every first Friday at midnight, 10 hours of non-stop mixing with the best in hip-hop, reggae, and dancehall. S-Team Records, let's go.
Yo, what it do? It's your boy Big Sty, Mr. Never Quit, Never Stop. Chillin' with my boy DJ 5 and DJ C. Kell. You know what time it is. Sure Shot Radio Show. Every first Friday at midnight. 10 hours of non-stop hip-hop. Live mixes, hip-hop, reggae, dancehall, baby. S-Team Records in the building. We going in this year, boy. Holla.
Yo, what up? This Jack Deuce, the New Moon. You know what it is. Rocking with my dog DJ C. Kell. Sure Shots Radio Show. Ha!
What's going on? Rough Riders in the building. It's the kid Drew James, and I'm kicking it with DJ C. Kell. Sure Shots Radio Show, baby. Let's get it popping.
Yes, the girl Shella the Blaze, and you listening to Sure Shots Radio Show.
Yeah, what up? This Jack Deuce. Kicking it with DJ 5. You know we grind for our paper. Let's get it cracking. Sure Shots Radio. Yeah. We'll be right back.